tranches de vie. Petit voyage à travers nos existences. Keep on saying you sure look good, African beauty. You're a cutie, African beauty. I love you. Oh, saw you from my window. My poor heart skip a beat. I'm gonna sit by your Chers auditeurs de Tranche de Vie, pour présenter Héloïse, comment ne pas utiliser le thème rebattu des voyages qui forment la jeunesse? Car elle est jeune et car c'est entre deux avions qu'elle a accepté de venir parler à RLP, venant de et allant vers des destinations lointaines. Héloïse, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. D'où arrivez-vous?
Je reviens juste de Tanzanie, dans une ville qui fait partie de la périphérie de la capitale Dar es Salaam et qui se nomme Chamazi.
Et qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas et combien de temps êtes-vous resté en Tanzanie?
J'ai été en Tanzanie pendant un mois et demi et j'ai été volontaire, j'ai fait plusieurs activités, mais la principale étant que j'étais professeur de mathématiques et de sciences pour des jeunes qui ont entre 13-14 jusqu'à 18-19 ans.
Comment êtes-vous parti là-bas? Qu'est-ce qui vous a attiré là-bas? Est-ce que ça fait partie d'un cursus que vous poursuivez? Ou bien est-ce que ça a été simplement une volonté de vous engager pour voir un pays pauvre et lui porter votre assistance?
Pour commencer, donc, je suis entre deux tranches importantes de ma vie. Je faisais mes études en Suisse et je pars maintenant continuer mes études au Canada. Donc j'avais pour commencer du temps, parce qu'il faut avoir du temps pour faire du volontariat de manière générale. Et j'avais envie de partir justement dans un pays pauvre, dans un pays d'Afrique, de manière à ce que mon aide serve réellement à quelque chose. Donc j'ai cherché au niveau du SVI, qui est le Service International du Volontariat, qui en ce qui concerne est pour la France et pour la Belgique, mais il y en a des milliers d'autres qui existent. Et ils m'ont ensuite orienté vers Ibikuta, qui est l'association avec laquelle j'ai passé donc un mois et demi. Et c'est avec cette association qu'ils m'ont proposé plusieurs projets. Et donc, il y avait cette possibilité d'enseigner, mais il y avait également du travail avec des orphelins, donc dans les orphelinats. Et on pouvait également faire tout ce qui est développement plus sur les réseaux sociaux et développement de l'association sur un point de vue plus mondial.
Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Vous avez parlé de vos études. Dans quel type de cursus êtes-vous engagé?
Jusque-là, je fais de l'ingénierie mécanique. Donc j'étais à l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, donc en Suisse, et je continue à Montréal, à Polytechnique Montréal, donc dans la capitale au Canada.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été vos premières impressions? Est-ce que d'abord, c'était votre premier contact avec l'Afrique subsaharienne?
J'étais allée avec mes parents en Afrique du Sud, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment qualifier ça comme d'Afrique subsaharienne. Et ensuite, y aller en tant que touriste et y travailler, ça n'a strictement rien à voir. Donc je pense que oui, on peut dire que c'était mon premier contact avec un pays d'Afrique subsaharienne.
Alors, vos premières impressions. Vous êtes vous arrivez dans ce pays qui, je le rappelle, est un pays d'Afrique orientale, qui est un pays qui est vaste quand même, hein, puisque c'est presque aussi grand que deux fois la France, et qui a une population de 52 millions d'habitants à peu près à l'heure actuelle. Quelles ont été vos impressions?
Il y a beaucoup de choses à dire, je pense, sur mes impressions du pays. On ne peut pas comparer. C'est impossible de comparer avec ce qu'on connaît de l'Europe ou du Japon ou de l'Amérique. Mes premières impressions, c'est que ça fait un peu penser à l'Europe, mais il y a peut-être 30 ans en arrière. Avec par exemple, dans les écoles, on utilise un stick pour frapper les enfants quand ils ne font pas correctement leurs devoirs ou quand est-ce qu'ils ne respectent pas l'autorité ou quand ils sont en retard. Ou des fois, juste pour le plaisir des profs, c'est de moins la véritable sensation qu'on en a. Je sais pas, on n'a pas l'eau courante, par exemple, dans l'endroit où j'habitais. Dans quasiment toutes les maisons, l'eau courante n'existe pas. L'électricité est quelque chose d'assez changeant, on va dire. On peut se retrouver rapidement sur une coupure d'électricité et nous arriver plus d'une fois de dîner à la bougie parce qu'on n'y voyait pas grand-chose. On n'a pas d'internet, par exemple, donc on peut acheter des cartes SIM qui nous fournissent la 3G, ce qui est déjà pas mal, donc on n'est pas non plus complètement coupé du monde. Sur les manières de vivre, donc la femme s'occupe des enfants, la femme fait la cuisine, la femme reste à la maison, mais il y a encore cette forte distinction d'homme-femme qu'il y avait également dans nos pays il y a peut-être 30 ans. Donc, il y a plein de choses qui font que ça me fait un peu penser à l'Europe, mais des années après. C'est comme si on devait tout reconstruire. Quand on arrive ici, quand on regarde un ordinateur, on n'est pas capable tout seul de construire un ordinateur. Et en fait, quand on arrive dans les pays d'Afrique, on revient exactement à « Ok, il faut construire un ordinateur, comment on fait ?» Et on se met à se poser des questions. Comment est-ce qu'on peut faire pour construire des choses que nous, on utilise dans le quotidien de manière tout à fait
visuelle ? Là, c'est l'ingénieur, le futur ingénieur qui parle. Mais... est-ce que vous avez reçu le choc de la pauvreté qu'on reçoit quand on va dans certains coins d'Afrique subsaharienne en disant, mon Dieu, comment vont-ils s'en sortir?
Je m'attendais à arriver dans un pays pauvre, je m'y étais préparée. Et ça n'est pas, je n'ai pas vraiment eu ce choc-là quand même parce qu'ils ne sont pas dehors dans la rue à montrer une pauvreté excessive. Ils savent très bien que personne ne va les aider, donc tout le monde fait en sorte de travailler et de faire quelque chose. Donc on ne voit pas cette pauvreté comme on peut l'imaginer.
Ça, justement, c'est ce qu'on appelle la résilience africaine. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'accommodent de la situation dans laquelle ils sont en faisant par tous les moyens, en utilisant tous les moyens de continuer à survivre. Mais malgré tout, pour quelqu'un qui arrive d'Europe, c'est quand même assez prégnant, hein, cette impression de pénurie, de rareté de certains produits, de coupure d'électricité, coupure d'eau, manque d'assainissement.
C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Quand on prend les maisons, la plupart des maisons sont en bois et principalement en tôle, de la tôle qu'on peut trouver dans les déchetteries chez nous, etc. Beaucoup de maisons sont constituées comme ça, c'est particulièrement précaire. Par exemple, pour faire la cuisine, on n'utilise pas, on n'utilise pas du tout, il n'y a pas d'eau courante, donc faire la cuisine, c'est quelque chose d'assez précaire, on va dire. On utilise une sorte de grand truc en acier qui permet de chauffer en mettant des braises et ça leur sert plus ou moins de plaque, chez nous une plaque d'induction ou plaque de gaz. Et pour faire un four par exemple, on utilise ce même engin avec du charbon, dessus on met une grosse casserole et on recouvre encore d'une grande feuille d'acier sur laquelle on remet du charbon par-dessus par exemple. Donc c'est leur équivalent de four. Donc oui, pour nous ça nous paraît particulièrement précaire et particulièrement pauvre, mais quand on y réfléchit, c'est aussi assez ingénieux, je trouve, comme...
C'est le royaume de la débrouille, hein.
Exactement, c'est exactement ça. Tout le monde se débrouille sur tout.
Alors, beaucoup de choses, beaucoup de questions à vous poser. Vos élèves, vous avez dit qu'ils allaient de 14 à 18 ans. Vous leur enseignez les mathématiques. Est-ce que vous avez décelé des génies mathématiques? Je suppose que si vous enseignez les mathématiques, c'est parce que vous avez un goût ou des aptitudes particulières pour ça.
Alors, j'ai été en fait dans deux écoles différentes. Parce que tout simplement, ils ont un rythme de scolaire différent chez eux, et pour eux, décembre, c'est la fin de l'année scolaire. Donc j'arrivais plus ou moins à la fin de l'année scolaire avec les examens finaux. Donc la première école dans laquelle j'étais, c'est Zongola Secondary School. Donc j'avais deux classes, deux tranches d'âge. La première avait entre 13-14 et la dernière classe avait entre 18-19 ans. Donc ils sont répartis en niveaux, classe A étant la meilleure classe, classe D étant la plus mauvaise classe. Le problème dans cette école publique dans laquelle j'étais, c'est que déjà par classe, ils sont 80. 80 élèves, la plupart sont assis à 3 sur une chaise, n'ont pas tous des bureaux et travaillent donc avec leur cahier sur leurs genoux. Donc déjà, c'est pas les conditions optimales. Et ensuite, quand on leur apprend, il y en a qui ont envie d'apprendre dans les classes A et B, ce sont les classes qui potentiellement peuvent aller ensuite faire des études à l'université ou au collège dans la capitale, ils ont vraiment envie d'apprendre. Ils ont vraiment envie d'apprendre et ils se donnent les moyens. Ils ne travaillent pas toujours à la maison parce que ça, c'est pas quelque chose qui est encore intégré dans la culture, mais ils se donnent vraiment les moyens, ils essayent vraiment de comprendre. Dans les classes C et D, des classes que certains profs eux-mêmes considéraient comme étant la poubelle de la société, ils ont déjà moins envie de travailler. Donc dans la dernière, dans les plus grands que j'avais dans l'école, certains d'entre eux sont extrêmement bons. Une élève, par exemple, était particulièrement douée et avait envie d'apprendre encore plus. ils ont vraiment cette envie d'apprendre, cette envie de savoir, parce qu'ils savent très bien que avec les études, on peut accéder à l'université, donc à un travail, donc à de meilleures conditions de vie, et eux, c'est ce qu'ils veulent, avec comme rêve suprême de partir de la Tanzanie et de venir en Europe, aux États-Unis ou au Japon ou dans un pays développé et particulièrement riche. Et dans la seconde école dans laquelle j'étais, ils avaient donc autour de 12-13 ans, donc ils étaient plus jeunes. Seulement une classe de 26 élèves. Je travaillais en binôme avec un Japonais qui a le même âge que moi, qui faisait les mêmes études que moi. Et on avait un traducteur, un professeur d'anglais qui nous traduisait tout en swahili, ce qui a été assez pratique. Il y avait particulièrement trois élèves, trois filles, qui étaient toujours au premier rang d'ailleurs et qui avaient une véritable soif d'apprendre et qui me demandait toujours des petits trucs mathématiques de manière à aller plus vite, à être meilleur et à être avec déjà cet esprit de compétition qui était particulièrement présente, même entre L3 qui étaient particulièrement amis. Donc oui, parmi eux, il y en a vraiment qui ont envie, qui sont vraiment bons.
Alors vous avez répondu par anticipation à des questions que je voulais vous poser sur la manière dont vous communiquez avec ces élèves. Donc vous communiquiez en anglais et il y avait un traducteur pour vous aider éventuellement quand il y avait des choses qui étaient un petit peu obscures. Mais est-ce que vous étiez sûr du traducteur qui passait de l'anglais au swahili
Pour commencer, dans la première école dans laquelle j'étais, donc j'étais toute seule face à 80 élèves et j'avais pas de traducteur. J'étais toute seule et il n'y avait personne qui était là pour traduire. Donc,
C'était les plus grands.
ils étaient plus grands, mais enfin, quand ils ont 18-19 ans, ils comprennent. Ils comprennent globalement l'anglais, ça va. Mais quand ils ont 13 ans et qu'ils sont en première année, ils comprennent strictement rien. Strictement rien à l'anglais. Donc je suis obligée de tout dessiner au tableau et en même temps leur faire un cours d'anglais et en même temps un cours de mathématiques, ce qui est beaucoup plus dur. Et là, j'aurais bien eu besoin d'un traducteur.
Oui, mais en même temps, j'imagine que vous avez éprouvé cette joie qu'on a quand on enseigne en Afrique, qui est d'apporter quelque chose que beaucoup de gens attendent, que beaucoup d'élèves attendent, boivent vos paroles. Et il ne s'agit pas de courir partout et de faire du bruit.
Ça, c'est certain. Les professeurs, que ce soit les bon, encore plus les professeurs qui viennent de l'Europe ou qui viennent des États-Unis ou des pays développés, sont vraiment considérés comme des génies. Comme quoi, ils ont la science infuse, ils savent tout. Donc, tout le monde, effectivement, on buvait particulièrement mes paroles, ainsi que les autres professeurs de l'école qui étaient ici. Après, ça reste des élèves exactement les mêmes qu'on a dans nos classes en Europe. Et c'est exactement les mêmes, donc ils ont quand même pas envie de travailler, il faut prouver qu'on a l'autorité et qu'on est capable de les contenir. Il faut quand même contenir une classe de 80 élèves qui n'a pas envie de travailler. Donc ça reste un véritable défi dans le domaine même de l'éducation, on va dire. Donc,
Mais encore une fois, c'est une expérience que vous avez trouvée exaltante, le fait d'avoir 80 personnes devant vous, les yeux braqués sur vous, même s'il y en a quelques-uns qui sont un petit peu distraits et qui sont assis par terre ou qui prennent. Alors ça, c'est quand même le choc, la rencontre de la pauvreté, quand même, qui est presque absolue, hein. Est-ce que vous avez fait autre chose que cet enseignement?
À côté de cet enseignement, notamment dans ma deuxième école, étant donné qu'on avait beaucoup de temps l'après-midi, une des premières choses qui nous avait particulièrement frappé avec mon partenaire quand on est rentré dans cette classe, c'est que donc ils avaient des bancs, ils étaient assis sur leurs bancs, mais ils n'avaient aucun bureau. Il n'y avait strictement aucun bureau dans la salle et ils travaillaient donc tous sur leurs genoux. Et étant donné qu'on avait du temps et suffisamment de connaissances avec mon partenaire japonais, on a décidé de construire des bureaux en bois. Donc on a construit 8 bureaux en bois en faisant les plans, en mesurant tout de manière assez approximative parce qu'il n'avait pas de mètre. Donc on savait qu'on avait un cahier qui mesurait à peu près 22 cm. Donc on essayait d'estimer plus ou moins les dimensions qu'on voulait à partir de ça. Et effectivement, donc on a fini par construire, avec l'aide notamment d'un charpentier, des 8 bureaux pour cette classe-là.
Des bureaux collectifs ou des bureaux individuels?
Des bureaux collectifs donc ils peuvent. C'est prévu pour qu'ils s'assoient techniquement à 3, mais ils s'assoient beaucoup plus sur un bureau. Mais techniquement, on a fait 8 bureaux, donc c'est suffisant pour cette classe. Et ils sont techniquement à 3 par bureau, oui.
Satisfaction de la foule?
Énorme. Grande satisfaction de la foule, grande surprise de la part des élèves, qui étaient particulièrement contents de pouvoir enfin ne plus être en plus aphagie, parce que même sur le plan simplement physique, être penché toute la journée, c'est épuisant, et pour le développement physique des enfants, c'est quelque chose d'abominable. Et grande stupéfaction du professeur, qui ne s'y attendait pas du tout et qui était particulièrement surpris. Donc oui, grande satisfaction générale.
Très bien, bravo. Là, c'était quand même un plus énorme à ajouter à l'enseignement. Vous avez parlé de votre partenaire japonais. Vous étiez toute une équipe de volontaires, comme ça, qui enseignait, une équipe internationale, apparemment.
On est donc tous volontaires et on vient du monde entier. J'habitais au début dans une maison avec 5 autres catalans. J'ai par la suite été rejoint par une Belge, mais dans l'autre maison, il y avait également 2 Allemandes. Il y avait au total 5 ou 6 Japonais qui sont ici. Une autre Française m'a par la suite rejoint. Il y avait également une Américaine, un Taïwanais, et je pense que c'est à peu près tout pour notre équipe.
Mais... C'est une grande école, alors, plusieurs centaines d'élèves.
En définitive, tous ces volontaires ne sont pas là que pour l'enseignement. Par exemple, moi, j'étais pour l'enseignement, nous étions 4. Il y avait 2 Irlandais qui étaient là avant, le Japonais et moi. Mais les autres travaillaient, par exemple, à l'orphelinat. On est tous ensemble, on vit ensemble, on mange ensemble, mais on a tous des projets plus ou moins différents.
D'accord. Donc quelque chose d'assez complexe comme organisation, si en même temps, il y avait un orphelinat avec lequel vous avez peut-être pris contact aussi.
L'orphelinat, j'y suis allée plusieurs fois. C'est un grand orphelinat et très ouvert, avec beaucoup d'espace pour les enfants. Il y a à peu près 150 enfants qui ont entre 1 et 26 ans. Donc parfois des grands enfants aussi qui ont d'ailleurs du mal des fois à quitter l'orphelinat parce que ça correspond à la sécurité pour eux, et quitter cette maison, c'est compliqué. Mais oui, c'est un grand orphelinat, donc de 150 enfants à peu près, et il y a beaucoup de volontaires qui travaillent avec eux.
On a laissé de côté les conditions matérielles d'existence. On a évoqué un petit peu les pannes d'électricité et d'eau. Est-ce que vous avez eu chaud? Est-ce que vous avez eu faim? Est-ce que vous avez goûté à des plats exotiques? Est-ce que quand même il y a eu une part de découverte qui a été intéressante à côté de la routine de l'enseignement?
Est-ce qu'il fait chaud? Oui, il fait très chaud. Il fait 35 degrés la journée et 30 la nuit. Et nous sommes dans une période où il fait techniquement moins froid maintenant.
On est dans les terres basses et tout près de la mer.
Exactement. Et au niveau de Dar es Salaam, on n'est effectivement pas très loin de l'océan, donc il fait encore plus chaud et c'est très humide. Quand on s'enfonce un peu plus dans les terres, c'est plus sec, il fait toujours aussi chaud, mais c'est un peu plus sec. Donc est-ce que j'ai eu chaud? Oui, nous avons particulièrement chaud. En ce qui concerne l'eau et la nourriture, en ce qui concerne les conditions d'hygiène, pour ça, ils font particulièrement attention à nous parce qu'ils savent que nous ne sommes pas habitués à manger tout et n'importe quoi, qu'on a un système digestif qui est différent du leur. Et dès qu'on est un peu malade, ils nous envoient directement à l'hôpital, ils font très attention à nous, donc ils n'ont pas le temps qu'on soit malade. On doit travailler et ils n'ont pas les capacités de tous nous amener à l'hôpital. Donc ils font très attention à nous. Et au niveau de l'eau, personne n'a jamais été malade à cause de l'eau là-bas, parce qu'elle est toujours potable, elle est très bonne et tout va très bien au niveau de l'eau. En ce qui concerne la nourriture, on a des cuisinières qui changent toutes les mois, qui se relaient, qui nous font le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc on mange des plats des fois européens, comme bah, tout simplement des pâtes, du riz, des frites, mais on mange beaucoup de plats de Tanzanie également, comme... un plat que les Tanzaniens adorent, qu'on appelle ugali, qui est un mélange avec de la farine, de l'eau, quelque chose qui est très compact, très très dur, et qu'on mange souvent avec une sauce, et ils le mangent avec strictement tout. Après, on a autre chose qui s'appelle les chapatis, qui sont une sorte de crêpe.
C'est la porte de l'Inde, ça.
Exactement, qui sont une sorte de crêpe. Ils mangent ça énormément également. Ils mangent énormément d'haricots rouges en sauce. Certains plats vont être épicés, mais pas plus que ça, pas plus que chez nous. En petit déjeuner, ils ont des sortes de beignets trempés dans l'huile, donc particulièrement graisseux. Ils ont des mandazis, qui sont une sorte de beignets beaucoup plus secs, par exemple. Donc oui, on a goûté à beaucoup de plats qui sont locaux.
Est-ce que vous avez eu le temps d'aller voir Dar es Salaam et de vous rendre compte de ce que pouvait être un enfer urbain subsaharien? Je parle de la circulation, je parle des chaos urbains.
On avait plusieurs temps libres, notamment le week-end. Le week-end, on restait rarement au centre et on allait toujours dans la capitale ou dans les villes alentours d'ailleurs. Donc oui, on a découvert, disons, les grandes villes africaines, donc avec énormément de trafic. Donc où concrètement on conduit avec un code de la route qui leur est très particulier. Donc avec énormément de monde, et puis dès l'instant où on descend et on se balade dans les villes comme par exemple à Kariakou, qui est un immense marché qui fait partie également de la périphérie de Dar es Salaam, énormément de monde, ça fait un peu comme les marchés marocains ou tunisiens. Donc on vend de tout, qui sont quand même abrités comme dans des souks en définitive. Donc avec tout le monde, en plus on est particulièrement blanc, donc on est synonyme d'argent et de bon passeport. Donc tout le monde veut nous vendre tout et n'importe quoi. On essaye de nous parler en anglais, on essaye de nous parler en swahili. Donc oui, disons qu'il y a énormément de monde, tout le monde se bouscule, tout le monde va vite et tout le monde veut vendre au prix les babioles qu'on essaye de nous donner, de nous refiler en définitive.
Mais c'est sympathique quand même les marchés africains.
Sympathique. Disons que c'est une expérience que je ne suis pas prête d'oublier. Donc, c'est vivant, on arrive à trouver de tout. On a les gens qui viennent de partout, on sait qu'ils ont cultivé leurs légumes dans leurs champs, qui viennent les vendre au grand marché. C'est exaltant, il y a énormément de vie, c'est dynamique, ça ne dort jamais. On peut se retrouver à 2h du matin, c'est comme si on était en pleine journée. En définitive, ça ne dort jamais. Exactement, parce que c'est encore le plus frais et c'est là où il y a peut-être un petit peu moins de monde. Donc, au niveau de la capitale fait un peu plus européanisée avec des grandes tours en acier en verre, ce qui nous a particulièrement surpris d'ailleurs. Probablement des Américains ou des Européens qui viennent maintenant pour le business, qui essayent de... Exactement, des banques et des choses qui sont beaucoup plus de chez nous, disons. Et elle, forcément, donc ça fait un peu plus européen, mais ça reste quand même l'Europe des Africains. Ils gardent comme ils sont quand même chez eux, et ça reste quand même avec les marchands ambulants partout qui.
À côté des tours en verre, vous avez le temps de voir des quartiers vraiment déshérités, des bidonvilles.
Exactement.
Du style de ceux qu'on voit à Nairobi et ailleurs, d'ailleurs.
C'est exactement ce qui fait un contraste assez particulier. En bas d'une immense tour, notamment pour les banques, on va se retrouver avec des habitations particulièrement précaires. Donc c'est un contraste qui est tout à fait saisissant et qui peut parfois être un peu, comme un choc, parce que c'est là où c'est vraiment le choc des cultures qu'on voit l'une à côté de l'autre, en définitive.
Je vois l'heure tourner, on va être obligé d'aller vite. Je voudrais quand même, pour finir, vous demander, aucune mésaventure ?
Si, beaucoup de mésaventures, notamment...
Ah, la plus grosse, alors.
La plus grosse, disons, quand on est allé à Chalinze, une fois qu'on est allé un peu plus dans les terres, c'est une ville, une toute petite ville où on était juste en transit, on est sorti du bus, tout le monde nous a sauté dessus en essayant de nous dire « Vous allez où ? Où est-ce que vous voulez aller ? Est-ce qu'on peut vous aider ?» Et ensuite, dans le bus...
On est pour des touristes.
Oui, on nous prend tout le temps pour des touristes, mais dès l'instant où on parle un peu swahili, ils comprennent que... Et on explique qu'on vit ici, qu'on est volontaire, qu'on gagne...
Pour autre chose.
Exactement, c'est un peu mieux, mais de toute façon, ils nous prennent quand même pour des passeports, comme ils savent très bien que s'ils font... Leur grand plan, c'est de faire un faux mariage avec nous, de venir avec nous en Europe, de manière à réussir à avoir les papiers, puis de supprimer ce faux mariage, comme si, en fait, les États européens n'étaient pas du tout au courant de cette... Ils s'en sont persuadés, d'ailleurs. Et donc, dans ce bus, c'était compliqué, parce que les gens venaient, ils ouvraient les fenêtres, les portes, tout le monde voulait nous parler, nous vendre... On nous a fait payer le prix du bus, trois fois le prix des locaux, en nous disant simplement que nous étions blanches, donc nous étions différentes, donc nous avions par définition de l'argent. Donc on a vécu une sorte de racisme à l'envers de chez nous, donc c'était assez particulier. Exactement, donc ça c'était une belle...
Désagréable.
Ça c'était une grande aventure, pas très agréable, pas la plus agréable on va dire.
Avant de vous demander si vous avez d'autres passions que les voyages, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous allez faire au Canada ?
Continuer mes études d'ingénierie mécanique. Donc je rentre, chez eux c'est la deuxième année du baccalauréat, donc chez nous une licence. Donc, ce qui équivaut également à la deuxième année chez nous. Et donc, je continue l'ingénierie mécanique à Polytechnique.
À Montréal, hein, vous avez dit. Alors, comme je le fais traditionnellement, je vais vous demander maintenant si vous avez d'autres centres d'intérêt, d'autres passions que les voyages, que l'assistance humanitaire, que les mathématiques, que l'ingénierie.
Mes hobbies, j'aime...
Je sais que vous avez au moins un hobby sportif.
Effectivement, je monte à cheval depuis donc 18 ans. Donc c'est une grande passion, on va dire. Mais à côté de ça, je joue aussi du piano, j'écris énormément. Et je suis très ouvert, disons, culturellement, et j'aime tout faire. Donc,
Et le cheval, j'imagine que vous l'avez abandonné en Tanzanie, mais vous allez le retrouver à Montréal ?
Je ne sais pas si je vais avoir le temps, tout simplement, à Montréal. J'en profite pour l'instant d'être ici, de manière justement à en profiter un maximum. Mais à Montréal, je ne sais pas, peut-être me mettre dans d'autres associations sportives, peut-être monter à cheval, je ne sais pas encore ce qu'aura ma vie là-bas, mais j'ai hâte de le découvrir.
Obligé de vous mettre au hockey sur glace, peut-être ?
On ne sait pas, peut-être bien.
Vous connaissez déjà le Canada ?
J'y suis déjà allée, notamment j'ai passé 2 mois à Vancouver dans une famille d'accueil il y a 2 ans, donc j'ai un peu vécu et je sais que c'est...
Vous connaissez le genre de vie.
Exactement, je sais que je vais aimer cette vie-là et j'ai hâte de commencer à Montréal.
Donc, alors, notez bien que nous prenons rendez-vous pour votre prochain retour en France, si nous sommes encore là, pour vous faire parler de votre expérience canadienne.
C'est noté, je serai là.
Est-ce que vous avez, pour revenir à l'Afrique, est-ce que vous avez envie de revenir en Afrique ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues en Afrique ? Vous avez parlé de l'Afrique du Nord, que vous semblez connaître. Est-ce qu'il y a des régions en Afrique qui vous attirent ?
J'ai un peu connu donc maintenant l'Afrique de l'Est, éventuellement. Apparemment, d'après ce qu'en disent les autres, le Kenya ressemble un peu à la Tanzanie. Pourquoi pas faire l'Afrique de l'Ouest ? Maintenant, vu qu'on a fait l'Afrique du Nord et que j'ai déjà fait l'Afrique du Sud, donc peut-être un peu plus l'Afrique centrale. L'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Mais oui, je pense que je retournerai. C'est plus dur, c'est dur, je sais. Mais maintenant que j'ai eu un premier contact avec l'Afrique, pourquoi pas retourner peut-être après mes études. Peut-être après mes études, pourquoi pas faire un stage ou d'autres volontariats là-bas.
Voilà, pour la poursuite aussi de cet engagement humanitaire.
Le monde ne demande qu'à être découvert.
C'est sur cette magnifique conclusion que nous allons nous quitter. Héloïse, merci beaucoup.
Merci à vous.
Bon voyage, puisque c'est tout prêt. Et bonne reprise de vos études.
Merci beaucoup. Merci et de m'avoir accueilli.
À la prochaine fois.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.
In my life, yo, me never seen melanin so dark. You're the queen of the dance floor night. It's your life on the legacy scene, baby. Won't you put me in your diary? In my life, yo, me never seen melanin so dark. You're the queen of the dance floor night. It's your life on the legacy scene, baby. Won't you put me in your diary?